بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة السادس من شهر جمادى الثاني عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس هو الخامس في رسالة ستة مواضع من السيرة على مؤلفها رحمة الله. Nous sommes le 5 mars 2014 et c'est le cinquième cours de l'écrit « Les six événements dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». قال المؤلف رحمه الله الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. Le sixième et dernier événement qui est cité par l'auteur, rahimahullah ta'ala, est le suivant. C'est celui de l'histoire de l'apostasie de certaines personnes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'auteur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, va nous citer une chose qui est connue dans la sira, c'est qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, des gens ont quitté l'islam. Certains ont dit, s'il était vraiment un prophète, il ne serait pas mort. D'autres ont dit d'autres paroles. Ils ont quitté l'islam. Et suite à cette histoire ou à cet événement, il y a des leçons à retenir. Et c'est ce que nous cite ici Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il nous dit, celui qui écoute cette histoire, donc qui l'étudie et la comprend, n'aura plus aucune, il ne restera dans son cœur plus aucun atome d'ambiguïté. Cette ambiguïté qui a été émise par les démons parmi les hommes que l'on a nommés les savants. Sachez que dans l'islam, il y a ulama al-haq, les savants du vrai, de la vérité, ou ulama su, et les savants du mal. Il peut être un alim, il peut être savant, avoir beaucoup de science, mais pourtant, il est égaré. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Et Allah l'égare avec sa science. Et c'est de ces gens-là qu'il nous parle, rahimahullah ta'ala. Il dit que ces gens-là ont émis une ambiguïté, une shubha, dans laquelle ils disent que celui qui prononce la parole « La ilaha illallah » ne mécroit en aucun cas. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse comme acte, il a d'autre qu'Allah azza wa jal, il insulte la religion d'Allah azza wa jal, il se moque et toutes ces choses-là, pour lui, il n'y a pas d'annulatif de l'islam. Wal'iyadhu billah. Il dit que celui qui prononce, ils disent, pardon, que celui qui prononce la ilaha illallah ne sort pas de l'islam. Qui sont ces gens-là? Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a dit que ce sont les savants égarés. Ulama al-dalal, les savants de l'égarement. Parmi ceux qui adorent les tombes, en dehors d'Allah, Azza wa Jal, parmi les têtes, par exemple, de soufis, du soufisme, et bien d'autres encore parmi les sectes égarées de la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disent toutes que tant que la personne prononce la ilaha illallah, elle ne sort pas de l'islam et rien ne lui nuira. Et Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, a dit que une personne peut-elle prononcer la ilaha illallah et ensuite invoquer autre qu'Allah azza wa jal alors que cette parole la ilaha illallah la ma'bouda bihaqqin illallah veut dire nulle divinité ne mérite l'adoration en vérité à part Allah. Donc la personne prononce cette parole dans laquelle elle reconnaît qu'elle ne doit vouer l'adoration qu'à Allah seul, et ensuite elle se dirige vers autre qu'Allah, Azza wa Jal. à l'image d'une personne qui construit et qui détruit. Si cette personne détruit, est-ce qu'il va rester quelque chose de son édifice? Il ne va rien rester. De la même manière, la personne qui dit la ilaha illallah doit savoir qu'il y a des choses qui détruisent cette parole. Ces choses-là sont ashirku billahi azza wa jal, l'association à Allah et la mécréance. Et juste avant ça, qu'est-ce qu'on a étudié? Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Bah pour ces gens-là, il n'y a pas d'annulatif de l'islam. Wal-iyadhu billah. Cette parole a un sens. Elle veut dire n'adorer qu'Allah seul et sans associé. Subhanahu wa ta'ala. Délaisser l'adoration d'autres qu'Allah et tabaraka wa ta'ala. Et ces gens-là, qui penchent vers shubuhat, les ambiguïtés, et les textes qui sont ambigus, al-mutashabihat, se servent de certains textes, parmi lesquels un hadith qu'on appelle hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. Ce hadith, c'est l'histoire d'un homme qui viendra le jour du jugement dernier. Cet homme-là a commis énormément de péchés, il n'a rien comme bonnes actions. Si ce n'est qu'il a prononcé la parole « La ilaha illallah » Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là verra des feuillets qui seront déployés devant, derrière lui, à sa droite, à sa gauche. Sur ces feuillets, tous ses péchés seront inscrits, consignés. Quand il regardera tous ces feuillets, il sera convaincu qu'il sera détruit et qu'il sera voué à la perte. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui dira « As-tu une hasana, une bonne action ?» Il dira non, ya Allah. Allah Ta'ala lui dira, regarde, et tu ne seras pas lésé aujourd'hui. Alors il sortira une carte sur laquelle on verra écrit, la ilaha illallah. Et Allah Ta'ala lui dira, pose cette carte sur le plateau de la balance. Et de l'autre côté, on posera tous ces feuillets où ces mauvaises actions sont consignées. Il dira, mais qu'est-ce que cette carte va faire devant tous ces feuillets? Allah Azza wa Jalla lui dira, pose la carte, aujourd'hui tu ne seras pas lésé. Il posera la carte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et alors les feuillets se déploieront, ils vont s'envoler complètement, et la carte sera bien plus lourde que tous ses péchés. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le mérite de cette parole, la ilaha illallah. Et que celui qui prononce cette parole et qui s'y attache, va entrer au paradis et Allah lui pardonnera. Ces gens-là, ulama ussu, les savants du mal, qui permettent le shirk et le kufr et la mécréance, en disant que ce n'est pas de la mécréance, se servent de ces hadiths en disant, regardez, cet homme a 99 feuillets de péché, il a une carte où il a dit la ilaha illallah, et on lui a tout pardonné et tout effacé. C'est une ambiguïté pour celui qui ne comprend pas. Mais qu'est-ce que les gens de science font quand il y a des textes qui sont ambigus? C'est une règle chez Ahlus Sunnah, chez les gens de la Sunnah, c'est de ramener les ambiguïtés aux textes qui sont clairs. Et quand on dit les ambiguïtés, ils ne sont pas ambigus pour les savants, pour ceux qui ont la connaissance. Ils sont ambigus pour les ignorants. Pour les ignorants, il y a des textes qui, quand ils les lisent, ils paraissent ambigus. D'autres qui sont clairs. Allah Azza wa Jal nous dit « Allahu khaliqu kulli shay » Allah est le créateur de toutes choses. C'est un texte qui est clair pour les gens. Et il y a d'autres textes qui demandent de la science et de la compréhension. Qu'est-ce que les gens qui sont malades font? Ils prennent les textes qui demandent de la compréhension et les interprètent à leur manière pour arriver à leur fin. Tel fut le cas pour ces gens-là. Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit « هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى » التي تقيده. Ceci est un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais nous devons le renvoyer aux autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le comprendre, car ce hadith est global. D'autres hadiths viennent conditionner ce qui a été cité ici. Il dit la yu'khadhu taraf wa yutraku taraf. On ne doit pas prendre une partie et délaisser une autre, comme le font les juifs et les chrétiens. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Quant à ceux dans les cœurs desquels il y a une déviance, ils prennent ce qui paraît ambigu. des textes ce qui paraît ambigu. Pourquoi ? Ibtira al-fitna wa ibtira al-ta'wil, à la recherche de la discorde et de leur interprétation. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Et ne connaît son interprétation que Allah Azza wa Jal. Wa rasikhuna fil 'ilm, et ceux qui sont enracinés dans la science, yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina, disent nous croyons en tout cela. Tout cela provient de notre Seigneur. Donc voilà ce que fait celui qui est doué de raison et celui qui est doté de savoir, de connaissance. Quand il y a un texte ambigu, il le renvoie à l'autre qui est clair pour bien le comprendre, afin de ne pas s'égarer. Et les gens de la bid'a, de l'innovation, que ce soit les gens du soufisme, soufiya, l'asha'ira, l'khawarij, l'murji'a, et tous ces gens qui sont égarés et qui les suivent, l'ikhwan, jama'atut tablir, tous ces gens-là prennent des textes qui sont ambigus et se servent de ces derniers pour arriver à leur fin et justifier leur fin à cause d'un manque de science ou d'une mauvaise intention. Car si on prend les textes qui sont ambigus et on les ramène à ceux qui sont clairs, les textes qui sont clairs nous définissent le sens des textes qui sont ambigus. Et c'est comme ça que Ahl Sunnah sont restés fermes depuis toutes ces années, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin, ne cessera d'exister dans ma communauté une partie, une fraction qui seront en apparence sur la vérité. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Et ne les nuiront en rien ceux qui les contredisent parmi les kuffars et ceux qui les abandonnent parmi ceux qui innovent dans la religion d'Allah, cela jusqu'à ce que l'heure arrive et ils seront dans cet état. Donc, voici la voie des gens de la sunna et la voie des gens de l'innovation. Donc, tous les hadiths dans lesquels on voit que celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis doivent être ramenés à ceux qui les détaillent et qui les expliquent. Sinon, on s'égare dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man salla al-bardain dakhala al-jannah. Celui qui prie les deux fraîcheurs, la prière du Fajr et du Asr, entrera au paradis. Si on s'arrête sur ce hadith, on dit que tant qu'on prie al-Fajr et al-Asr, on entrera au paradis. Et alors, on peut aller associer à Allah, on peut aller commettre les kaba'ir, les grands péchés, et on se sert d'un texte qui est ambigu. Mais si on vient à tous les autres textes qui sont clairs et qui démontrent le sens des autres, comme ça on restera dans le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a cité des conditions. Dans un hadith, il dit: man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah entrera au paradis. Si on s'arrête sur ça, on dira que toute personne qui dit la ilaha illallah avant de mourir entre au paradis. Mais dans d'autres hadiths, il nous dit: man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt tout en sachant que nulle divinité n'a le droit d'être adorée en dehors d'Allah, donc en comprenant le sens de cette parole, entrera au paradis. Si une personne dit la ilaha illallah et invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, pensez-vous que cette parole va lui être utile? D'aucune utilité ne lui sera cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ici, c'est une condition. Et si on cherche tous les hadiths, on va réunir toutes les conditions. Et c'est ça que les savants ont appelé shurutu la ilaha illallah, les conditions de la parole la ilaha illallah. Quant à ceux qui invoquent les tombeaux, ceux qui s'adonnent à la tombolâtrie et qui adorent les tombes en dehors d'Allah Azza wa Jal, ceux qui font des immolations et des sacrifices qu'ils vouent à des saints ou à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah ne leur est d'aucune utilité. Elle ne leur est d'aucune utilité. Ils disent, cela n'est pas de l'association. Cela n'est pas de l'association. Et on peut le faire. Et ceci est une mauvaise compréhension de la parole. La ilaha illallah. C'est pour ça que l'auteur les a surnommés shayatin, alladhina yusammawna bil ulama, les diables qu'on appelle les savants. Pourquoi est-ce qu'il les a appelés les diables? Parce que quel est le but du diable? Si ce n'est de t'égarer d'Allah et de t'amener au shirk et à la mécréance. Et ces gens-là sont à l'image des démons, car ils appellent en vérité à vouer le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Certes, Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah à la recherche de la face d'Allah, avec une condition, que quand il dit cette parole, il ne le fait que pour Allah. Mais s'il adore autre qu'Allah azza wa jalla, est-ce qu'il l'a fait pour Allah? Vous avez la réponse. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec autant de péchés que la terre peut en supporter, je viendrai et tu ne m'associes à rien, tu ne m'associes rien, je viendrai vers toi avec autant de pardon que la terre peut en supporter. Vous voyez la surface de la terre et sa largesse? Imaginez-vous qu'elle est remplie de péchés. Et imaginez que l'un d'entre nous s'imagine que toute la terre contient ses péchés. Ce dernier vient le jour du jugement dernier avec tous ses péchés devant Allah, mais il n'associe rien à Allah. Allah lui viendra avec autant de pardon. Donc quelle est la condition? Qu'il meure sans associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une condition qu'a cité Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à ceux qui prennent une partie des textes et délaissent les autres, ils ont suivi la voie de ceux dont les cœurs sont malades, de ceux qui cherchent absolument des preuves pour justifier ce qu'ils font. Et c'est une maladie dans le cœur. Car nous, les musulmans, nous devons d'abord lire les textes et ensuite les appliquer. Nous ne devons pas faire ce que bon nous semble et ensuite chercher dans les textes ce qui va dans notre sens, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. L'auteur a dit: وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْبَرُ, et plus grand encore que ça et plus immense, تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّ الْبَوَادِي لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ شَعْرَةً وَلَكِنْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ أَهْلُ إِسْلَامِ. Donc pire encore que ces gens-là qui sont appelés les savants du mal disent de manière franche que les bédouins, ici il fait référence à des bédouins de son époque, certains parmi eux mécroyaient en l'existence de la résurrection, al-kufru bil-ba'th, d'autres adoraient autre qu'Allah azza wa jal, et les savants du mal de son époque, rahimahullah ta'ala, disaient de ces bédouins qu'ils étaient des musulmans parce qu'ils disaient la ilaha illallah, même s'ils s'adonnaient à l'adoration d'autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit que ces gens-là disent que les bédouins, et ils attestent que les bédouins n'ont rien de l'islam, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne paient pas l'aumône, ils n'accomplissent pas le pèlerinage, ils ne font absolument rien, mais simplement ils prononcent la ilaha illallah. Ils disent que par cette parole, ils sont croyants. Ils sont croyants. Donc le but de ce dernier point ici, c'est de montrer que l'islam, ce n'est pas une parole, mais c'est des actes. Ce n'est pas que une parole, mais c'est une parole des actes et des convictions. Il y a des annulatifs de l'islam. Et quand quelqu'un commet un annulatif de l'islam, même s'il prononce mille fois la ilaha illallah, mais après il adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il s'égare de l'islam et en sort. Wal'iyadu billah. Donc ce qui a été appelé ici al-bawadi, ce sont les bédouins, ceux qui vivent dans le désert. Donc les égarés disent: il est suffisant de dire la ilaha illallah pour être épargné de la mécréance. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ أَنَّهُمْ مَا مَعَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ شَعْرًا. Ces derniers, les savants du mal, disent cette fausse parole tout en reconnaissant que ces gens-là, les bédouins, n'ont rien de l'islam. Mais ils disent, vu qu'ils disent la ilaha illallah, cela est pour eux suffisant pour être des musulmans. Ils ne prient pas, ni ne jeûnent, ni n'accomplissent quoi que ce soit des ordres d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh Al-Fawzan dit, Ya Subhanallah, la ilaha illallah, laysat mujarrada kalima. Ya Subhanallah, cette parole n'est pas une simple parole qui n'a pas de sens. Law kana hadha huwa al-islam, sara kullu an-nas muslimin. Si l'islam était cette définition, alors tous les gens seraient musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Quraysh, قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية قالوا خذ وأبيك ألف كلمة ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Quraysh, dites une parole avec laquelle tous les Arabes se soumettront et tous les non-arabes, les étrangers et donc qui ne pratiquent pas l'islam, bien sûr, paieront pour vous un impôt. Les gens de Quraysh ont dit, toi et ton père, prenez 1000 paroles. C'est une façon de dire, on accepte tout ce que tu vas nous dire. Et on peut dire même si tu veux 1000 paroles. Quelle est cette parole? Le prophète leur a dit, dites la ilaha illallah, et ils ont répondu. Donc là, ils ont refusé parce qu'ils n'acceptent aucunement cette parole. Ils ont dit, va-t-il réduire nos divinités à une divinité unique? Voici là une chose étonnante. Et donc, on voit qu'à travers cet événement, ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Et au jour d'aujourd'hui, des musulmans ignorent encore le sens de cette parole. Wal-iyadu billah. Donc, Allah Azza wa Jal nous a aussi parlé de ces derniers en disant إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités, nos idoles pour suivre un poète fou? Alors que chez les Arabes, le poète c'est celui qui avait atteint le summum de la raison. Car pour écrire des vers de poésie, il faut avoir une réflexion. Il faut avoir la sagacité. Il faut savoir parler. Mais quelqu'un qui a perdu la raison, comment va-t-il faire des poèmes? En sachant qu'il parle du Coran et que le Coran est plus éloquent encore que la poésie. Regardez comment ils se sont contredits. Quand tu ne suis pas le haq, tu te contredis. L'auteur a dit, وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. Donc ces gens-là ont dit, les savants du mal dont ils parlent, pour résumer, il fait référence en premier lieu, car avec tous ces livres, il réfute les ambiguïtés très nombreuses et diverses qui ont été émises par les gens du mal de son époque. Et ici, il s'adresse à eux, mais aussi ce livre et ses écrits servent de leçon tout le temps en vérité, car l'histoire se renouvelle sans arrêt. Et donc, il dit que ces gens-là ont dit, malgré la reconnaissance que les Bédouins dont ils parlaient n'ont rien de l'islam, certains parmi eux mécroient en la résurrection, se moquent même d'ailleurs de la résurrection, tant qu'ils ont dit « La ilaha illallah » ils sont devenus sacrés chez Allah, ils sont devenus croyants, tout comme l'ont été leurs biens et leur sang. Et le Cheikh Al-Fawzan a dit, voici la parole des savants du mal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idha qaluha عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Donc, ils se servent de cette parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Puis quand ils la diront, ils préserveront par cette dernière ou par celle-ci de moi, leur bien, leur sang. Mais ils n'ont pas cité la fin du hadith. Dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَيُقِيمُ الصَّلَةَ وَيُؤْتُ الزَّكَةَ. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah, accomplissent la prière, paient l'aumône. S'ils font cela, alors leur sang, leurs biens deviendront sacrés. Donc, on voit qu'ils trichent avec les textes. Et c'est la tariqa, la voie suivie par les gens du faux. Wal'iyadu billah. Le Cheikh a dit, وَيَقُولُونَ إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُنْكِرُ الْبَعْثِ يَصِيرُ مُسْلِمًا. S'il dit la ilaha illallah, même s'il mécroit la résurrection, il sera quand même un croyant parce qu'il a prononcé cette parole et on vient de voir que c'est une grande contradiction. Qui sont ces gens qui prononcent ces paroles? Nous ne parlons pas de gens du commun des gens ou de la masse, mais nous parlons de gens qui sont savants, qui ont de la connaissance dans la langue arabe, qui ont de la connaissance dans la jurisprudence, al-fiqh, et dans beaucoup de sciences, mais dans le domaine de l'aqidah, du tawhid et du dogme du musulman, ils sont égarés et ils sont éloignés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de se servir des textes du Coran et de la sunna, ils se servent de la philosophie, ils se servent de la logique, ils se servent de ce qu'on appelle ilmul kalam et toutes ces sciences qui ont conduit les enfants d'Adam à l'égarement, alors qu'auparavant ils étaient dans le droit chemin. Et c'est comme cela que les gens s'égarent, jusqu'à arriver à un point où ils se pensent tellement élevés dans la connaissance et la culture qu'ils ont dit « Il suffit de dire et de reconnaître qu'Allah est notre Créateur pour être croyant. » Ils ne savent pas qu'avec une telle parole, ils ont dit que les chrétiens sont croyants, que les juifs sont croyants et que toute autre personne qui dit qu'il y a un Créateur est croyante. Et avec cette parole, ils ont annulé l'islam et toutes ses bases. Wal'iyadu billah. L'auteur a dit, wa istihza'uhum wa tafdiluhum din aba'ihim al-mukhalif li din an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'a hadha kullih yusarrihu ha'ula'i ash-shayatin al-maradatu al-jahala an al-badwa aslamu wa law jara minhum dhalika kulluh. لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. Il dit que, bien sûr, ces gens-là, les savants du mal de son époque et ceux qui sont pareils à toute époque, ont dit que quand on dit la ilaha illallah, cela est suffisant, même si on ne croit pas à la résurrection. Et certains ont même dit que leur religion est meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que les bédouins sont musulmans quoi qu'ils fassent, car ils ont dit la ilaha illallah. Il découle de cette parole qu'ils ont proférée que les juifs sont musulmans, car ils disent cette parole. Les juifs disent la ilaha illallah. Mais est-ce que les juifs sont musulmans? Arzqi. Les juifs sont musulmans? Non, les juifs ne sont pas musulmans. Et pourtant ils disent la ilaha illallah. Donc celui qui dit que dire la ilaha illallah fait entrer dans l'islam, quoi qu'on fasse après comme annulatif, revient à dire que toute personne qui dit la ilaha illallah est musulmane comme les juifs. Et la mécréance de ces gens-là est bien plus grave que celle des juifs. La mécréance de ces gens-là, c'est-à-dire des bédouins, elle est bien plus grave que celle des juifs, car eux, ils mécroient à la résurrection, alors que les juifs, eux, ne mécroient pas. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Ensuite, l'auteur dit, parmi ce qui te montre clairement ce principe, l'histoire de l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de quitter l'islam, ce qui a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les apostats se sont divisés. Certains parmi eux ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont revenus à l'adoration des idoles et des statues, et ont dit: s'il était vraiment un prophète, il ne serait pas mort. D'autres sont restés sur l'islam en apparence, c'est-à-dire qu'ils ont dit « nous croyons au sens des deux attestations de foi », mais quand Mousaïlama est arrivé, Mousaïlama est un homme qui a prétendu la prophétie, il a dit aux gens qu'il est prophète. Ils ont cru en sa prophétie. Ils ont dit, Mohammed est un prophète et Moussa Ilama est un prophète. Et avec cette parole, ils ont mécru. Car celui qui dit qu'il y a un prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut être musulman? En aucun cas. D'ailleurs, il y a une secte qui existe à l'heure où je vous parle qui s'appelle l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya, c'est une secte qui est née au Pakistan et dont le gourou a prétendu la prophétie. Et ils disent quand il est mort que son fils a repris la prophétie. Et cette secte existe jusqu'au jour d'aujourd'hui et ils ont des centres en France où ils croient que leur cheikh est un prophète. En dehors d'Allah, Azza wa Jal, ces gens-là n'ont rien à voir avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Al-Fawzan a dit que les apostats se sont divisés en deux groupes. La première catégorie, ceux qui ont dit si Mohammed était véritablement un prophète, il ne serait pas mort. Ceux-là ont quitté l'islam sans le moindre doute, car ils ont mécru au message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les deuxièmes, ceux qui ont cru en l'attestation de foi et son sens, mais ils ont cru que Moussa Ilama al-Kadhab, le menteur, était prophète. Ils ont dit, il est un prophète. Cette parole a rendu caduque l'attestation de foi qu'ils ont prononcée. Et cela à l'unanimité des savants. Les savants sont unanimes pour dire que celui qui croit à la prophétie de quelqu'un après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un kafir billah, est un mécréant d'Allah azza wa jalla. Parce qu'Allah a dit walakin rasul Allah wa khatam an-nabiyyin. Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Et Moussa Ilama est venu aux gens et leur a dit, Mohammed m'a associé à lui dans la prophétie. Il n'a pas dit Mohammed n'est pas un prophète, parce que personne ne l'aurait cru. Pour que les gens le croient, il leur a dit, Mohammed m'a associé à lui, je travaille avec lui dans la prophétie. Et il allait voir les gens pour leur dire, crois-tu que je suis un prophète? Celui qui disait oui le suivait, et celui qui disait non, on lui infligeait des tortures et des sévices, et on le châtiait, et on les tuait. Et d'ailleurs, on a pris Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, un tabi'i pieux, que Moussa Ilama est venu voir et lui a dit, est-ce que tu crois que je suis le messager d'Allah? Et Abu Muslim lui a dit, je ne t'entends pas. En plus, après il lui a dit, est-ce que tu crois que Mohammed est le messager d'Allah? Il lui a dit, na'am, Mohammed Rasulullah. Ensuite il lui a dit, et moi tu crois que je suis le messager d'Allah? Il lui a dit, je n'entends pas ce que tu dis. Ensuite, Moussa Ilama a ordonné, parce que c'était un chef qui avait une armée, a ordonné à ce qu'on attrape ce tabi'i et qu'on le lance dans le feu. Et il y avait des compagnons qui étaient là. Et ils ont dit, Allahumma ja'alha bardan wa salaman kama ja'altaha li Ibrahim. Oh Allah, fais de ce feu une fraîcheur salutaire comme tu l'as fait pour Ibrahim. Alaykum salam. Et Allah a exaucé l'invocation des sahaba radiallahu anhum et le feu ne lui a été d'aucune nuisance. Il est sorti indemne du feu. Et quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu a rencontré cet homme, il a commencé à le questionner. Il se doutait que c'était lui, mais lui ne voulait pas le dire. Salaf, les pieux prédécesseurs, étaient motivés pour la sincérité, ils ne voulaient pas se montrer. Ils n'aimaient pas être connus, comme aujourd'hui on le voit malheureusement. Donc Omar lui a posé des questions. Est-ce que tu connais une personne qui a eu telle et telle chose, à qui il est arrivé telle et telle chose? Et lui, il répond, oui, je sais, il y a une personne là-bas à qui il est. Et en fait, il parle de lui. Jusqu'à ce que Omar lui a dit, je te demande par Allah, est-ce que c'est toi? Et quand il lui a dit oui, il l'a emmené voir Abu Bakr, qui était le calife des croyants. Et il lui a dit, regarde ce qui est arrivé à cet homme-là. Et Abu Bakr a dit, loué soit Allah qui m'a permis de voir dans ma communauté quelqu'un qui n'a pas été brûlé comme Ibrahim, alayhi salam. Mais c'était une parenthèse pour vous reposer un peu. L'auteur a dit, ظنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. Donc, les apostats se divisent en deux. La deuxième catégorie, ceux qui ont cru en la prophétie de Musaylama, ils se sont fait avoir, ils ont cru que Musaylama était l'associé du prophète صلى الله عليه وسلم dans la prophétie. Et beaucoup de gens ont cru en Mousseilama, et à cause de ça, ils ont mécru et sont sortis de l'islam, puisque le dernier messager, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Je suis le sceau des prophètes, le dernier, nul prophète ne viendra après moi. L'auteur a dit Wa ma'a hadha ajma' al-ulama annahum murtaddun wa law jahilu dhalik wa man shakka fi riddatihim fa huwa kafir. Malgré cela, malgré l'ignorance de ces gens-là qui ont dit nous croyons qu'il est l'associé du messager d'Allah, cette ignorance n'a pas été une excuse pour eux. À l'unanimité des savants, les savants les ont comptés du nombre des apostats qui ont quitté l'islam. Et ceux qui ont douté, ceux qui doutent de la mécréance de ces gens-là, les rejoignent dans la mécréance. Wal'iyadhu billah. Car comme on a vu dans les annulatifs de l'islam, celui qui doute de la mécréance d'un mécréant le devient avec eux. L'auteur a dit « Fa'idha » عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة ومنهم أنواع أخر. Puis l'auteur nous cite que lorsque tu as compris que les savants sont unanimes sur la mécréance de ceux qui ont démenti le prophète صلى الله عليه وسلم et qui après sa mort se sont remis à l'adoration des idoles, ceux qui ont insulté le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et ceux qui ont cru en la prophétie de Mousseilama sont dans le même état. Ils sont identiques chez Allah azza wa jalla, même si en apparence ils sont encore dans l'islam, dans la prière, dans la zakat et dans tous les actes de l'islam. Parmi ces gens-là, il y a aussi ceux qui ont cru en l'attestation de foi, mais qui ont suivi Tolaïha. Tolaïha, c'est un homme qui a aussi prétendu être messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « وَسَيَكُونُ كَذَّبُونَ ثَلَاثُونَ » Viendra après moi, viendront après moi 30 menteurs. « كُلُّهُمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةِ » Et ils prétendront tous la prophétie. Donc, il nous a enseigné que des gens vont arriver et vont prétendre la prophétie. Parmi ces gens, un qui s'appelle Tolaïha et qui a prétendu être prophète. Ce dernier a été suivi par son peuple, puis combattu par les compagnons, radiyallahu anhum. Puis, Allah a guidé Tolaïha. Après s'être fait combattu, il a réfléchi et il a compris qu'il était inutile pour lui de prétendre à la prophétie. Il a reconnu que le véritable prophète, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam, et il a rejoint le nombre des musulmans. Il s'est repenti à Allah, puis il s'est fait assassiner lors de la guerre qui a opposé les musulmans aux Perses. La Perse, c'est l'Iran actuel. Parmi ces gens-là, certains ont cru en la prophétie d'un homme qui s'appelle Al-Ansi, un yéménite de la ville de Sana'a, la capitale du Yémen. Et il a été assassiné par Abdullah ibn Fayrouz al-Daylami fi akhiri hayati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc été assassiné à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Mousseilama, فإنه قاتله الصحابة في حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد حتى قتلوه. Il a été combattu dans une guerre très difficile qui a opposé les musulmans à Mousseilama, le menteur, et son armée, dans un endroit qui s'appelle Yamama. Yamama, c'est un endroit qui est à la péninsule arabique, à l'heure actuelle proche de la ville de Riyad, Riyad en Arabie Saoudite, et a d'ailleurs été tué Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans ce combat. Et ensuite les compagnons ont réussi à éliminer Mousseilama, walillahil hamd. Ils sont donc tous dans la même situation. Les apostats en diverses sortes d'apostasie. Mais ils sont tous pareils et ils sont tous regroupés dans la sphère de la mécréance en Allah, même s'ils disent La ilaha illallah. L'auteur a dit Akhiruhum, le dernier d'entre eux, celui qui a prétendu la prophétie, Al-Fuja'atu Sulami, Lamma wafada ala Abi Bakrin. وذكر له أنه يريد قتال المرتدين. Pardon, ce n'est pas le dernier de ceux qui ont prétendu la prophétie. Donc on va lire et vous allez comprendre. Lorsque As-Sulami, ce dernier, est arrivé avec une délégation pour voir Abu Bakr, radiallahu anhu, qui était le gouverneur des croyants, pour lui citer qu'il a voulu combattre les apostats. وطلب من أبي بكر أن يمد. Il a demandé de l'aide à Abu Bakr. فأعطاه سلاحا ورواحل. Abu Bakr lui a donné des armes et des montures. فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم. فجهز أبو بكر جيشا لقتاله. Et alors, السلمي a fait une traîtrise et il a pris les biens des croyants et des kuffars. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, qui à la base lui avait donné des armes parce qu'il croyait qu'il allait combattre les ennemis de l'islam, As-Sulami s'est servi de ses armes pour combattre les musulmans et leur piller leurs biens. Abu Bakr a préparé une armée pour le combattre. فلما أحسن أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره فلم أكفر فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. سبحان الله. Après cela, quand l'armée d'Abu Bakr est venue pour combattre As-Sulami, As-Sulami a dit au chef de son armée, tu es le chef de l'armée envoyée par Abu Bakr, et moi aussi je suis le chef de l'armée envoyée par Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr l'a envoyé, il lui a donné des armes, il lui a donné des montures. Et lui, il a voulu jouer sur cet argument pour cacher son vrai visage. Donc, on lui a dit, si tu es véridique dans ce que tu dis, alors jette les armes. Il a jeté les armes, puis on l'a amené à Abu Bakr. Vous savez ce qu'a fait Abu Bakr radiallahu anhu? Il a ordonné à ce qu'il soit brûlé alors qu'il était vivant. Donc, qu'est-ce que l'on retire de ça? On retire de ça que sa prétention ne lui a été d'aucune utilité. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. Donc si le jugement des compagnons a été ce que vous venez d'entendre sur cet homme-là, alors que les compagnons savaient que cet homme-là avait les actes apparents de l'islam, il priait, il jeûnait, il prononçait l'attestation de foi, que dire alors de quelqu'un qui est bien moindre que ça? Quelqu'un qui n'a rien de tout ça et qui se suffit d'une seule parole, la ilaha illallah, et qui ne fait rien après et qui, avec ses actes, dément le sens de cette parole et qui se désavoue de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du livre d'Allah. L'auteur dit وَيَقُولُونَ هَذَا دِينُ الْحَضَرُ وَدِينُنَا دِينُ آبَائِنَا. Ces gens-là disent cette religion, c'est la religion des gens de la ville, et la nôtre, c'est la religion de nos ancêtres. ثُمَّ يُفْتُونَ هَؤُلَاءِ الْمَرَدَةَ الْجُهَالِ أَنَّ هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ وَلَوْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ كله اذا قالوا لا اله الا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. L'auteur va terminer en disant, puis après cela ils émettent des avis juridiques en disant que quand ils disent la ilaha illallah, même s'ils font tous les actes d'association qu'on a vu, ils sont encore croyants. L'auteur a dit, oh Allah, exempt sois-tu, c'est certes un immense mensonge forgé à ton encontre. Puis l'auteur termine en disant وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْبَوَادِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا وَسَمِعَ شَيْئًا مِنَ الْإِسْلَامِ قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمين أهل الإسلام أنه كافر. تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Donc l'auteur termine en disant: Ô combien est belle cette parole dite par un bédouin lui-même. Donc ici il parle des bédouins dont on a parlé, qui ne reconnaissent pas la résurrection, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans le droit à l'adoration. Il dit: Ô combien est belle cette parole prononcée par ce bédouin à qui nous sommes venus pour lui exposer le véritable islam. Il a répondu: Je témoigne que nous sommes des kuffars. Je témoigne que nous sommes des kuffars, et je témoigne que celui-ci, les savants dont il a parlé, et je témoigne aussi que celui-ci qui dit que nous sommes croyants est un kafir, est un mécréant. Ici, c'est l'attestation de celui qui est concerné lui-même. هذا عربي جاء لدرس الشيخ. Ici, là, l'auteur fait allusion à un bédouin qui est venu un jour s'asseoir dans un dars du cheikh et qui a entendu l'islam et ses bases. ولما عرف الإسلام معرفة صحيحة. Quand il a connu l'islam pleinement, شهد على نفسه قبل أن يعرف الإسلام وعلى جماعته أنهم كفار. Il a attesté de lui-même, c'est lui qui est concerné, il sait comment il était, il sait ce qu'il a fait. Il a attesté que lui et les siens étaient mécréants à cause de tout ce qu'ils avaient fait. وشهد أن المطوع يعني العالم الذي العالم الذي يقول إنكم مسلمون أنه كافر لأنه حكم لهؤلاء الكفار بالإسلام وما أكثر أشباهه. Donc il a même attesté du savant de son époque qui a dit qu'il était croyant, qu'il était mécréant. Pourquoi? Pour tout ce que l'on vient de voir. Et avec ça s'achève cet écrit de cet auteur. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرحم المؤلف ويدخله ويدخلنا وإياه الجنة. Donc on s'arrête ici, et la semaine prochaine inshallah on fera un sujet général. Ensuite il n'y aura pas cours pendant 2 semaines, et après ça on reprendra un autre livre et on vous informera bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي تتم به الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.